Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous sur Pacific FM pour un nouvel épisode d'Enquête de l'au-delà. Ce soir, je suis accompagné de Jérémy. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Thomas, bonsoir les
auditeurs. Tout va bien ? Bonsoir à nos auditeurs. La semaine s'est bien passée pour toi, Jérémy ?
Très bien,
en pleine forme, très très bien aussi. Alors les amis, ce soir, nous avons la chance d'avoir donc deux invités qui nous intéresseront particulièrement dans le cadre de notre émission, qui parle évidemment de l'au-delà, des esprits, du paranormal, aussi bien pour les sceptiques que pour les plus expérimentés dans le domaine. Tout simplement, nous avons la chance d'accueillir Michel Van Bokkestal, qui viendra nous parler, on en parlera tout à l'heure évidemment, de son livre Le Poltergeist Dark Watrip. On parlera donc de ce phénomène. On a aussi la chance d'accueillir ce soir Giovanni Consentino. Donc là, on a vraiment un physicien, un professeur de physique. On parlera de vous tout à l'heure. Mes amis, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Très bien, Michel.
Merci
aussi
pour l'invitation.
Très bien aussi.
On vous en prie. Donc Michel, vous êtes déjà un habitué de Pacific FM.
Je suis en tout cas relativement habitué de la radio. Des médias, je dirais plus ou moins en général. Oui. J'ai fait de la radio dans mon jeune temps. Ça remonte à loin quand même.
C'est vrai ?
Oui.
C'était un bon souvenir pour vous, la radio ?
C'était un bon souvenir, tout à fait. C'était au temps donc, où ça commençait, les radios libres. C'était l'épopée des radios libres.
D'accord. Alors, pour nos fidèles auditeurs donc, qui ont écouté Au-delà du mystère lorsque vous étiez déjà invité dans nos studios, eh bien là, ils vous connaissent déjà un peu. Mais pour nos nouveaux auditeurs d'Enquête de l'au-delà, est-ce que vous pouvez, Michel, vous présenter un petit peu, aller plus loin dans votre présentation, finalement ? Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Quel est votre lien, justement, avec cette émission et le thème de notre émission Enquête de l'au-delà ?
Voilà, donc le nom complet, c'est Michel Van Bokkestal. Je suis le président du CERPI, C-E-R-P-I, qui signifie Centre d'études et de recherches sur les phénomènes inexpliqués. Alors, comme son nom l'indique, le groupement en question étudie donc tout ce qui est inexpliqué, c'est-à-dire aussi bien le surnaturel que le paranormal, l'ufologie, les phénomènes inclassables, et nous menons des enquêtes sérieuses sur ce genre de problématiques. Donc, nous allons sur place également donc, dans des maisons prétendues hantées, et celle d'Arquatripon en fait partie. Alors donc Arquatripon, ça c'est toute une affaire très importante qu'il conviendra de développer et sur laquelle on a dit beaucoup de choses, on a proféré aussi pas mal d'erreurs et donc nous avons rétabli la vérité à ce propos-là parce qu'il y a eu toute une campagne de désinformation. Donc je pense que c'était particulièrement important, même au niveau de toute la francophonie, de rétablir cette vérité et également de dénoncer le scandale de la désinformation dont elle a fait l'objet.
D'accord, donc tout cela s'est passé donc dans les années 90,
en 93.
De nos jours, on dit, voilà, c'est une affaire qui fait le buzz. On n'utilisait pas trop ce terme à ce moment-là, mais c'était réellement ça, ça a fait le buzz à ce moment.
On va dire que ça a défrayé la chronique, pour utiliser l'expression consacrée. Donc effectivement, ça a fait la une de pratiquement tous les journaux, en tout cas de notre côté, du côté néerlandophone un peu moins probablement. Mais bon, aussi bien donc dans la presse papier que la radio, la télévision, ça s'est expatrié, je veux dire, jusque dans les pays anglo-saxons, donc sur CNN, Sky Channel, etc. Donc ça a quand même une bonne représentation, je veux dire. C'est pas le genre de petite fête d'hiver qui est passé pratiquement inaperçu. Ça a vraiment secoué toute la Belgique. On était à la sortie de la vague belge, donc en 93, puisque ça avait commencé en 89, la vague belge, jusqu'à 91, 92, c'est de l'arbitraire là, pour les dates. Mais donc on était justement dans la continuation de ces phénomènes. Et en 93 surgissait le phénomène d'Arquatripon. C'était vraiment quelque chose de très prenant. Même à la télévision, on en parlait beaucoup.
D'accord. Oui. Et Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc quel était finalement le lien entre cette affaire et vous ? Pourquoi vous y êtes tant intéressé ?
Alors, au départ, on n'avait pas l'intention même de faire une enquête là-dessus parce que ça remontait à 93 et quand nous en avons été avisés, c'était en 2010. Mais à l'époque, moi, je préparais mon premier livre, donc « Les phénomènes inexpliqués en Belgique », et j'ai été avisé par M. Jean-Marie Thesmoin, qui était un chroniqueur judiciaire, chroniqueur médical, journaliste également, et diplômé de philosophie, de l'existence de cette maison hantée, sur laquelle il avait lui-même donc déjà enquêté en 93 avec d'autres personnes de renom, telles que Vladimir Verovaki, Jacques Léon Théodore et d'autres, le professeur Dirkens, entre autres. Et donc, il soulignait l'importance de cette affaire qui, selon lui, méritait une meilleure analyse parce que, justement, il y avait eu tout un blackout. Dès le départ, donc, foi de gendarme, l'affaire ne devait pas être médiatisée. On pouvait déjà se poser des questions à ce sujet-là. Pourquoi le public ne pouvait-il pas être mis au courant de cette affaire ? Et puis, je veux dire que de fil en aiguille, on a commencé à s'y intéresser, premièrement donc dans l'optique de la réalisation de mon premier livre, mais simplement pour le présenter succinctement. Et puis, il y a une équipe télévisée qui nous a proposé de faire un reportage là-dessus. Alors ça s'est fait, effectivement. Malheureusement, le résultat a été catastrophique. Ça a été un véritable massacre. On s'est rendu compte qu'on a vraiment présenté un travail complètement torché, je vais dire. Hein. C'est-à-dire que tout a été présenté comme s'il s'agissait d'une vaste supercherie. D'accord. Avec des preuves à l'appui, avec des témoins d'ailleurs, qui stipulaient que selon eux, avec leur témoignage, tout ça ne reposait que sur... le fait que l'un des protagonistes était un doudingue, par exemple, que le reste n'était que de grossières supercheries. Alors donc, à l'écran, nous avions été complètement laminés, taillés en pièces, descendus en flammes. Évidemment, ça c'est le genre de choses dont on a beaucoup de mal à se relever, d'autant plus qu'on a reçu d'autres types d'attaques, téléphonie sur écoute, des rôdeurs qui se profilent à l'horizon, le site web qui est piraté, notre nom de domaine qui est détourné, c'était vraiment très très dur à cette époque, et donc ça nous a boosté pour pouvoir faire un travail vraiment super compétitif sur cette affaire. Je voulais absolument que la vérité en ressorte, quelle qu'elle soit. Si c'était une supercherie, j'allais le savoir aussi. Si c'était vrai, il fallait le dire. Mais il fallait de toute façon pouvoir en avoir le cœur net, savoir de quoi il s'agissait, ce qui était vraiment la vérité, quoi. Et donc on a réalisé cette enquête, ça nous a pris du temps, ça a été très difficile. Il a d'abord fallu décortiquer toute cette affaire, pouvoir démontrer que malgré ce qui était prétendument des supercheries, ça reposait malgré tout sur une vérité, mais qui avait été transformée à dessein. Et par la suite, on s'est dit, voilà, là, maintenant, on a quand même vraiment quelque chose. Il faut signaler pour la petite histoire que sur place, il y avait quand même une quinzaine d'officiels. Donc, une dizaine de gendarmes et, on va dire, cinq policiers qui étaient sur place, qui ont été témoins, eux, donc de leurs yeux vus, si vous voulez. Des phénomènes, ils y ont assisté pendant 48 heures. Alors ce n'était pas seulement uniquement des gendarmes, je veux dire des ploucs ou bien pour les policiers des gardes champêtres, mais c'était des gradés du côté policier, c'était donc inspecteur, c'était commissaire. De l'autre côté, on avait des sous-officiers, on avait un officier même, ça est allé jusqu'au commandant. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. À partir du moment où vous avez une quantité de témoins et une qualité de témoins de ce type, je pense qu'il y a quand même de quoi se poser des questions.
Tout à fait. Exactement. Jérémy, tout à fait. Par rapport à cela, tu veux...
Mais j'ai perdu le fil de ma...
Non, est-ce qu'on pourrait tout simplement expliquer les faits? Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas connu cette histoire, pour ceux aussi, pour nos auditeurs qui n'étaient pas forcément nés ou qui étaient encore tout petits à ce moment-là, donc voilà, pourquoi cette affaire a-t-elle finalement tant fait parler d'elle? Vraiment la nature des phénomènes, est-ce que vous pouvez encore nous détailler, ou du moins les faits les plus marquants?
Oui, mais si on commence à développer l'ensemble des phénomènes qui ont eu lieu à Quatripon, on n'est pas sorti de l'auberge.
Du moins, les plus grands. Et justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de phénomènes même endroit. C'est ça qui est intéressant. Giovanni, est-ce que c'est le moment de vous laisser justement un tout petit peu la parole? Donc, rappelez-nous d'abord, qui êtes-vous?
Voilà, je suis professeur de physique dans l'enseignement secondaire supérieur, dans la région de Mons, voilà. Et bon, je dois dire que depuis tout petit, je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Ça fait une quarantaine d'années que je me documente tous les moyens possibles sur ce sujet qui me passionne. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'approche scientifique. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais depuis 150 ans environ, il y a un très grand nombre de scientifiques qui se sont intéressés au paranormal et qui l'ont étudié avec des méthodes tout à fait rationnelles. Voilà. Et donc moi, en 1993, là, j'ai vraiment eu une chance exceptionnelle, parce que lorsque les phénomènes se sont déclenchés, j'enseignais tout près, à quelques kilomètres du village d'Arc-Patripon. Donc, je vais peut-être résumer, en fait, cette affaire. Voilà, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1993, vous avez donc une famille qui appelle les forces de l'ordre vers 22h30, 23h, et... voilà, ils font un appel en disant que chez eux, il se passe des choses terrifiantes, incompréhensibles en tout cas. Il s'agit de déplacements d'objets, de projections violentes de bibelots contre les murs, des choses comme ça. Alors évidemment, les deux gendarmes qui entendent ce message se disent « bon, c'est de la foutaise, c'est pas sérieux ». Mais disons que leur métier les oblige quand même à aller sur place. Et quand ils arrivent sur place, ben là, ils sont obligés eux-mêmes d'assister à toute une série de phénomènes. Voilà. Ils ont eu le bon réflexe d'appeler des renforts, hein, non pas parce qu'ils avaient peur des phénomènes, mais surtout parce qu'ils avaient peur de ne pas être pris au sérieux, parce qu'évidemment, des phénomènes comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, moi, le 8 janvier, donc, c'est-à-dire 3 jours seulement après le déclenchement des phénomènes, j'ai appris qu'une de mes élèves était la fille d'un commissaire de police. Alors, vous pensez bien, passionné comme je l'étais déjà à l'époque, hein, j'ai profité de l'occasion et j'ai immédiatement demandé à cette jeune fille de pouvoir entrer en contact avec son papa, qui était un commissaire, donc, et il a gentiment accepté. Et j'ai pu donc interroger, hein, si vous voulez, les policiers. Hein, c'est assez inhabituel, en général, c'est eux qui interrogent. Hein. Donc j'ai pu me rendre dans un commissariat de la région par deux fois, donc le 21 et le 22 janvier 1993, c'est-à-dire quelques jours à peine après les phénomènes, ce qui veut dire que dans leur esprit, les phénomènes étaient encore très frais, quoi, les souvenirs étaient encore très frais. Et donc j'ai pu rencontrer le commissaire de police ainsi que deux autres policiers. Tous les trois, évidemment, des témoins directs, hein, de ces phénomènes. Et j'ai donc profité de cet entretien qui en tout a duré une heure et demie, disons, hein, et j'ai rédigé un petit rapport. Et dans ce rapport, j'avais répertorié une douzaine de phénomènes différents. Hein. Alors si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns. Hein. Mm-hmm. Il y a par exemple la table de la cuisine qui s'est mise à glisser brusquement, hein, d'un coup sec, sur 15 cm. Il y a la fiche du téléphone qui a été violemment arrachée, le téléphone est tombé par terre, il s'est abîmé. Il y a eu des bibelots qui ont été projetés violemment. Par exemple, un livre a été projeté violemment dans la pièce. Alors, ça, comme disait Michel tout à l'heure, en fait, ça s'est étalé sur deux nuits. Hein. La nuit du 5 au 6 et la nuit du 6 au 7. Il y a eu, par exemple, aussi le soulèvement d'un matelas avec la personne qui était dessus. Et tout ça a été vu, hein, par les policiers qui étaient là. Il y a eu donc des projections violentes, un double vitrage qui avait explosé. Plusieurs bibelots qui ont été brisés, des plaques de marbre brisées, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça a été vraiment une chance exceptionnelle pour moi, parce que, disons, vraiment, dans les jours qui ont suivi, j'ai pu entrer en contact avec des témoins directs. Et c'est vrai que cette affaire, à l'époque, avait déclenché ce qu'on dit... Enfin, à l'époque, on ne disait pas buzz, parce que l'informatique, encore, n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que toute la presse, donc écrite, parlée et télévisée, a parlé de cette affaire. Voilà. Mmh. Et moi, je peux dire en tout cas que les trois policiers que j'ai rencontrés, et Michel ne va pas me contredire, les trois policiers que j'ai rencontrés étaient vraiment convaincus d'avoir assisté à quelque chose de sérieux. Quoi. Ce n'était pas de la blague, ce n'était pas une supercherie. Bien sûr, ils ont cherché des trucages, hein, mais ils n'en ont pas trouvé. Voilà. Par exemple, lorsque le matelas s'est soulevé, le commissaire de police m'a expliqué que juste après, ils avaient fouillé ce lit. Ils n'ont rien trouvé, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de mécanisme. Et on pourrait dire la même chose pour tous les autres phénomènes. Voyez,
d'accord, oui.
Il n'y a pas de fil, de trucage, de moteur ou de choses comme ça. Voilà, donc c'est resté un vrai mystère, en tout cas.
Un véritable D'accord. mystère, très bien. Et donc Michel, la suite justement, par rapport à cela, plus de 20 ans après, donc vous sortez donc ce livre, Le Poltergeist, Dark Poitripon. Voilà, le chemin jusque ce livre, donc. Expliquez-moi un peu.
Ce chemin a été très long, hein, comme je l'ai dit, il a fallu se rendre sur place. On avait déjà rencontré les propriétaires, déjà rencontré le fameux garde-champêtre sceptique, et fait hasardeux, parfois ça fait très bien les choses, l'un des gendarmes de l'époque se trouve être l'un de mes amis de classe.
Très bien.
Donc... Ce monsieur m'avait expliqué qu'il avait été très marqué par ces événements et qu'encore à l'heure actuelle, il pensait avoir rêvé tout ça parce que c'était vraiment absolument invraisemblable. Quoi. Donc survient le reportage télévisé qui nous massacre et puis après on se lance donc dans l'enquête à cœur perdu. Il fallait d'abord commencer par détricoter tout ce qui avait été supposé, à commencer donc par la folie, ou je dirais une pathologie mentale quelconque, donc de la part du jeune homme qui était sur place, qui était le fils adoptif et donc qui fréquentait la fille cadette des propriétaires, qui se prénommait Nathalie, je crois qu'elle se prénomme toujours comme ça maintenant d'ailleurs. Et en fait, donc, on a fait des recherches sur cette personne pour arriver à la conclusion qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas la moindre pathologie mentale. Non seulement il y a des psychologues cliniciens qui ont pu se pencher sur son sujet, il y a le professeur Dirkens, qui est d'ailleurs psychiatre de profession, en plus d'être docteur, qui a pu l'interroger, se rendre compte. Comme d'ailleurs on peut le voir dans l'émission Controverse qui avait eu lieu sur RTL TVI le 17 janvier, que ce monsieur se présentait à l'écran d'une manière tout tout à fait normal. Mm-hmm. Hein, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui, alors, si vous voulez, il pouvait être perturbé au moment des faits parce que, on le serait à moins. Il a subi des exorcismes, et il a reçu la visite d'une quinzaine de policiers. Mm-hmm. Il y a eu des phénomènes extraordinaires chez lui. Donc perturbé, stressé certainement, mais de la folie, non, il n'en était absolument pas question. Alors pour couper court à toutes ces discussions, je dirais tout simplement que la personne en question a subi un examen psychiatrique qui a été organisé par le parquet des procureurs du roi. Mm-hmm. Et donc c'est Monsieur Guy Poncelet qui était procureur à l'époque, qui l'a dit lui-même, donc il n'y a absolument rien de ce côté-là, en fait, de pathologie mentale. Donc on ne peut pas mettre ça sur le compte du jeune homme, comme ça avait été précisé à la télévision. Ça, c'est absolument faux. Par la suite, bon, on a continué les enquêtes. On a vraiment tout pris point par point, donc, parce que ce qui posait surtout problème à l'écran et qui embarquait les spectateurs dans une impression de supercherie, c'était certaines révélations de la part du propriétaire lui-même, lequel disait, quand le journaliste lui posait la question à propos du lit, est-ce que ce lit, est-ce qu'il n'a pas été cassé dans le temps, est-ce qu'il n'a pas été abîmé ? Et le propriétaire lui-même répond non. Il répond par la négative. Ouais. Alors évidemment, quand les spectateurs voient ce genre de choses, ils disent, bon, ça va, on a compris, il ne faut pas aller plus loin. Quoi. Pareil pour les volets, qui avaient été animés d'un mouvement tout à fait spectaculaire, qui avait d'ailleurs obligé les gendarmes à l'époque de faire sortir toute la famille, pour essayer d'analyser, pour essayer de voir s'il y avait une supercherie, quelqu'un derrière ce comportement tout à fait bizarre des volets. Et là aussi, le propriétaire dit lui-même qu'il ne se passait rien. Donc, on a... c'est vraiment très perturbant quand c'est la personne elle-même qui apporte une contradiction flagrante dans ce cas-là. Et ça, on a pu tout à fait donc le remettre. Non seulement le lit, c'est une certitude absolue, ça a été diffusé, c'est paru donc dans plusieurs journaux et déjà dans l'émission Controverse dont je parlais tout à l'heure. Le lit, on voit bien qu'il a été troué, il a été saccagé. Non seulement il a été bel et bien abîmé, mais en plus il a mal terminé ses jours puisqu'il a été brûlé à minuit pile avec des projections d'eau bénite. Mais bon, donc évidemment, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une confusion quand le journaliste lui pose la question. Le propriétaire répond sur le lit qui est présent au moment même, mais pas celui de 93. Parce que, évidemment, entre-temps, puisque le lit était de toute façon vraiment démoli, il a été tout simplement remplacé. C'est ce que n'importe qui aurait fait, quoi. Pour ce qui concerne les volets, eh bien, c'est une phrase qui comporte un non-dit. En fait, le journaliste lui demande, et les volets, il y avait des volets à l'époque. Et le propriétaire répond, oui, encore maintenant, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Mais il n'y avait rien non plus. Alors, il n'y avait rien non plus. Là aussi, le spectateur comprend qu'il n'y avait pas de phénomène particulier. En réalité, la phrase n'est pas terminée. Il n'y avait rien non plus qui justifiait le comportement de ces volets.
D'accord. Ouais. Ouais.
Et donc, le propriétaire, lui, sous-entendait qu'il y avait une action à distance, par exemple. Il s'agissait d'un phénomène de sorcellerie, de magie noire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est certain aussi que ces volets ont été animés d'une très curieuse manière. Quoi. Il tremblait, il jouait des castagnettes, il vibrait intensément. Et on l'entend très bien donc, dans l'un de nos enregistrements audio. De la part de la propriétaire qui explique avec sa voix chevrotante d'une soixantaine d'années, enfin 80 ans plutôt, quand on lui a posé la question, ses volets, il vibrait, quelque chose.
Que voulez-vous ajouter à cela?
Oui, je voulais ajouter quelque chose. Voilà, il y a quelques années, j'ai téléphoné au propriétaire de cette maison, parce que moi aussi, évidemment, j'avais été un petit peu interpellé par... ce qu'il avait dit, hein. On lui avait posé la question et il répondait deux fois, il n'y avait rien. Donc je lui ai téléphoné à ce brave monsieur qui est très âgé aujourd'hui. Hein. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il dit, non, il n'y avait rien. Et puis en insistant, il m'explique, mais non, c'était des choses envoyées. Et en fait, ce pauvre homme, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait rien de visible comme cause. Hein, il m'a confirmé par téléphone il y a quelques temps que bien sûr qu'il a assisté à ces phénomènes, mais il voulait dire qu'il n'y avait rien comme cause visible. Or, dans le reportage télévisé là, dont on est en train de parler, malheureusement, ce que le public comprend, c'est qu'il n'y avait rien comme phénomène, mais ce n'est pas rien comme phénomène, c'est rien comme cause visible. Il m'a bien confirmé de vive voix qu'il avait été témoin. Ce qui est vraiment scandaleux aussi dans cette émission, c'est qu'effectivement, on laisse entendre que le propriétaire n'a assisté à aucun phénomène. C'est totalement absurde, évidemment, puisque c'est lui-même qui a appelé les forces de l'ordre la nuit du 5 janvier. Il n'allait pas après appeler la police pour rien. Ça n'a aucun sens. Mmh. Et ce qui est bizarre, c'est que cette absurdité, malgré tout, elle passe à la télé. Hein. On parvient comme ça à manipuler les gens. C'est effrayant quand on voit ça. Hein. Il est évident que ce propriétaire, s'il appelle la gendarmerie, c'est parce qu'il se passe quelque chose. et pas parce qu'il ne se passe rien. On n'appelle pas la gendarmerie pour venir constater qu'il ne se passe rien dans une maison. Or, dans l'émission, on laisse entendre que le propriétaire n'a assisté à aucun phénomène et que ce sont simplement des élucubrations d'un jeune homme qui serait perturbé mentalement. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment choquant dans cette émission.
D'accord. Et avec un peu de recul, Giovanni, d'après vous maintenant, quel était le réel but de cette émission ? Faire un buzz contraire ?
Mais je crois, écoutez, vous savez, depuis qu'on s'intéresse à ces phénomènes scientifiques ou non, enfin, je veux dire, que les gens soient scientifiques ou ne soient pas scientifiques, vous savez très bien qu'il y a une querelle qui dure depuis toujours. Bon, vous avez toujours la population qui est divisée entre croyants, entre guillemets, et sceptiques de l'autre côté. Bon, disons que cette équipe télévisée se plaçait du côté sceptique et simplement, ils ont voulu aller au bout de leur... conviction personnelle, voilà. Je pense pas qu'il y avait un but précis, si ce n'est de confirmer leur scepticisme, voilà. C'est un comportement compréhensible sur le plan humain, hein. Chacun essaye toujours de défendre sa position. Hein, je pense pas qu'il y avait vraiment une idée derrière, mais c'était, voilà, de dire, vous voyez bien, nous sommes sceptiques et nous avons raison de l'être.
Ouais, d'accord, très bien. Jérémy, donc,
L'avis des policiers à ce moment-là, au moment de...
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je les ai rencontrés le 21 et le 22 janvier. Les trois policiers que j'ai rencontrés, je les ai écoutés vraiment séparément. Tous les trois étaient convaincus qu'ils étaient confrontés à quelque chose, en tout cas, qui était inexplicable. Mmh. Bon, bien sûr, personne ne pourra jamais apporter une preuve absolue, hein, que ces phénomènes sont authentiquement paranormaux, hein, qui ne sont pas truqués. Mais en tout cas, la conviction de ces témoins que j'ai rencontrés était qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle en termes de trucage, parce qu'ils ont fouillé cette maison pendant les deux nuits où ils étaient là. Ils avaient tout le loisir, hein, d'inspecter les meubles, d'inspecter tout ce qu'ils voulaient, les chambres, et ils n'ont rien trouvé de ce qui constitue le matériel d'un illusionniste, hein, c'est-à-dire des fils, des mécanismes et des choses comme ça. Donc, n'ayant rien trouvé, ils étaient obligés de reconnaître qu'il y avait des faits, ça c'est incontestable. Donc des objets déplacés, projetés, cassés, mais pas de cause visible en tout cas.
D'accord, très bien. Et là, une question aussi bien pour Michel que pour Giovanni. Donc, vous avez été en contact aussi bien direct qu'indirect avec tous les protagonistes de cette affaire, nous sommes d'accord. Est-ce qu'au niveau politique, est-ce qu'au niveau de la réputation, donc de la population d'Arquatripon, qui est donc directement, où le nom est directement lié à ces phénomènes, est-ce que vous avez eu le sentiment que cela dérangeait justement qu'Arquatripon soit justement, qu'on pense directement à toute cette affaire lorsqu'on évoque Arquatripon et le village. Est-ce qu'au niveau politique, vous avez parfois eu, on va dire, une sorte de soutien ou au contraire, on a dit, bon voilà, on n'a pas besoin de vous, voilà. Comment ça s'est un peu passé à ce niveau-là ?
Non, ce qui s'est passé, c'est que la presse, tout de suite, a plongé sur cette affaire. Hein. Et il y avait un avis assez unanime, d'ailleurs, dans la presse. C'est assez frappant. Hein. Je ne me souviens pas, à l'époque, parce que moi, j'ai collectionné tous les articles que je pouvais trouver, hein, presse écrite et tout ça, parler, télévisé. Je n'ai pas vu un seul reportage, un seul article qui essayait de démolir cette affaire. Mais ce qui s'est passé, en revanche, c'est que quelques jours après le déclenchement des phénomènes, le parquet était très embêté par cette affaire. Parce que, évidemment, ça prenait une telle ampleur que ça commençait à déranger, à cause de l'ampleur que ça prenait. Donc, à un certain moment, le parquet, d'après ce que nous savons, Michel et moi, le parquet a mis une espèce de holà, une espèce de blackout, en disant, voilà, maintenant, vous, les gendarmes, les policiers, vous ne parlez plus, vous ne témoignez plus. Parce qu'évidemment, ce sont des faits, des phénomènes embarrassants pour un parquet. C'est des phénomènes tout à fait inhabituels. Si vous voulez, on a une espèce de crime, on n'a pas de coupable. Bon, et c'est très dérangeant pour un parquet, ça.
D'accord, oui. Et au-delà de tout cela, est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez vraiment un sentiment de révolte lorsque vous voyez cette campagne de désinformation ? Est-ce que c'était plus fort que vous ? Donc là, je vais revenir un peu vers Michel. Quel était votre sentiment intérieur au-delà de l'aspect, voilà, je m'intéresse à tous les phénomènes, voilà, vraiment votre sentiment personnel.
Mais c'est vraiment tout à fait une révolte que je partage, en plus avec les gendarmes de l'époque, qui trouvaient donc cette émission absolument scandaleuse. Je me souviens de ce gendarme, d'ailleurs, qui parlait d'un certain animateur, présentateur télé, donc si je l'avais entre les mains, je l'étrangle. Hein, c'était aussi simple que ça. Mais il y a un point que je voulais signaler, c'est que cette émission ne s'est pas contenté de la simple petite Belgique, ici, à notre niveau. Parce que alors, on pourrait encore dire, bon, c'est tout petit, la Belgique, c'est un mouchoir de poche. Non, ben, premièrement, ça a été mis en archive sur le site de la chaîne télévisée, de telle manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès par Internet. De là, ça a dépassé nos frontières. Ça a été rediffusé deux ou trois jours plus tard, de telle manière que les retardataires, les personnes qui n'étaient pas présentes à ce moment-là, puissent quand même se rendre compte de la mise à mort du taureau. Hein. Et puis, bon, ça a été diffusé dans d'autres pays, de telle manière que ça a touché toute la francophonie, finalement. Mm-hmm. C'est parti donc en France, en Suisse, au Canada, au Québec, partout où on parle français. Donc, on était au courant, potentiellement en tout cas, de cette affaire. Donc, moi, je me mets à la place de quelqu'un, même de sceptique, si on n'est pas tout à fait sûr de son coup, pourquoi enfoncer le clou et aller mettre ça dans les autres pays. Il faut vraiment donc avoir un but de casser du paranormal, ouais, quelque chose comme ça.
Très bien. Jérémy, par rapport à cela, c'est une question précise.
Non, juste une réaction. C'est pas... Ok, les télés peuvent émettre leur propre avis, mais de là à casser ou démonter ce qui a été... construit, enfin du moins ce qui a été étudié.
On peut formuler un avis, bien entendu, mais il ne faut pas oublier non plus qu'une chaîne de télévision donc, qui agit au niveau professionnel est en principe bien documentée et qu'une partie des informations qui permettent d'arriver à certaines conclusions péremptoires était déjà disponible avant même le reportage. Ouais. Donc le journaliste ne pouvait pas l'ignorer, il devait déjà le savoir. Ouais. Ben, c'est l'exemple du lit qui était troué, il devait absolument le savoir.
Giovanni, je voulais ajouter que voilà, en janvier 1993, déjà il y avait des magazines qui avaient publié une photo de ce lit abîmé. Bon, ça faisait d'ailleurs l'objet d'une photo judiciaire. Donc c'est un document tout à fait officiel conservé au parquet de Tournai. Moi j'avais envoyé justement ce document aux journalistes. Donc ils savaient parfaitement qu'il y avait des preuves que ce lit avait été abîmé. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il va leur demander au propriétaire « Tiens, ce lit n'a pas été abîmé ». Il sait très bien que le lit qu'il voit à ce moment-là, en 2011, il sait très bien que ça ne peut pas être le lit qui avait été photographié et dont on avait publié les photos dans différents magazines. Il y a là quelque chose quand même de vraiment agaçant. Hein.
Effectivement, non, mais c'est vrai. Mais je me pose tout de même une question ici. Quand on regarde un petit peu donc, cette affaire, et si on fait un peu le lien ou la comparaison avec d'autres phénomènes que l'on aborde, par exemple, dans cette émission ici, Enquête de l'au-delà. Parfois, ben voilà, on voit une petite vidéo où un phénomène se passe, où on doute, on dit, bon voilà, c'est possible. Certains disent oui, c'est truqué, d'autres disent non, c'est possible, c'est un esprit. Bon. Est-ce que le fait qu'à Arquatripon, il y ait tant de phénomènes, que ce soit en quantité, mais aussi des phénomènes aussi violents, que ce soit un tel remue-ménage dans cette maison. Est-ce que tout cela, le fait que ce soit tellement gros, cela n'a pas nui à la crédibilité, justement ?
En tout cas, il y a un point qui a très certainement été nuisible à la crédibilité de l'affaire, c'est tout ce qui a concerné donc, l'aspect possession démoniaque donc, du jeune homme. Il était soi-disant possédé, il a fait l'objet de plusieurs exorcismes, et donc ça, évidemment, même déjà en 1993, ça passait mal. Pas seulement pour les anticléricaux ou ce genre de choses, mais ça n'avait plus le même impact que du temps de la sortie du film L'Exorciste, par exemple. Il ne fallait plus la faire vraiment aux gens. Et effectivement, donc, de ce côté-là, on peut dire aussi que nous avons fait une étude fouillée sur le problème de la possession éventuelle du jeune homme. Nous avons eu une chance incroyable, c'est de pouvoir tomber sur le rapport du patriarcat gallican, parce qu'il faut savoir que l'exorciste en question était un évêque gallican, et que l'église gallicane, qui est une église dissidente, est beaucoup plus permissive à l'égard des exorcismes donc, que sa consœur traditionnelle. Je veux dire par là qu'il leur faut moins d'éléments, ils sont plus réactifs, ils procèdent plus rapidement, plus facilement à un exorcisme. Mais de toute façon, donc, notre étude démontre parfaitement qu'il n'y a pas du tout ou pas assez de signes idiopathiques, donc des signes caractéristiques d'une possession démoniaque. Donc de ce côté-là, ça, on peut tout à fait l'exclure, il n'y a pas de surnaturel, en tout cas à ce niveau-là, mais c'est sûr que ce volet d'exorcisme a été une mauvaise chose pour l'affaire d'Arquatripon.
Très bien. Mes chers amis, l'heure avance, il est déjà passé 19h, donc ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale afin de souffler un peu, parce que tout ce que vous dites est super intéressant et je crois qu'il captive vraiment nos auditeurs, qui sont nombreux à nous écouter d'ailleurs. « Voilà les amis, on se retrouve pour la deuxième partie d'Enquête de l'au-delà avec Michel Van Bokostal et Giovanni Cosentino. Vous allez toujours bien mes chers amis?
Oui, ça va toujours.
Ça va toujours, ça va toujours. Donc Michel, eh bien oui, la raison, la plus grande raison pour laquelle vous êtes ici avec nous ce soir dans notre studio en direct sur Pacific FM, eh bien c'est pour votre livre, le livre que vous avez écrit, donc Le Poltergeist Dark Watripon, Vérité, Scandale et Désinformation.
Alors, édition Le Temps Présent.
Alors, édition Le Temps Présent, éditeur de quel pays?
C'est un éditeur français.
Tiens, un éditeur français, Michel.
Oui.
Pour une histoire belge.
Oui, oui, une histoire belge, entendons-nous bien, une histoire belge, mais une histoire sérieuse, ouais, c'est pas une blague française.
Hein.
Oui, mais enfin bon, il s'agit donc d'un éditeur français, effectivement, et j'avais effectivement d'abord un éditeur belge, qui avait d'ailleurs été lui-même, je dirais, sali par l'émission en question. Mais le problème justement, c'est que cet éditeur belge n'a pas voulu donc embrayer sur la question et donc assurer la publication de mon livre sur le poltergeist Dark Watripon, parce que sinon justement il allait s'impliquer et se mettre à dos une chaîne de télévision qui aurait pu également faire sa publicité pour d'autres ouvrages de la même collection. Donc là évidemment il y avait un problème pour lui, c'est comme ça que je le comprends, à moins évidemment tout simplement qu'il n'ait pas osé. Ça, c'est possible aussi. C'est pour ça que j'avais donc recherché de manière très claire un éditeur qui oserait. Et cet éditeur, je l'ai trouvé, c'est donc M. Jean-Michel Grandcyr. Qui m'avait été conseillé d'ailleurs par le professeur Jean Dirkens, auquel je remets d'ailleurs le bonjour, parce que bon, c'est une personne très intéressante, d'une bonté exquise et d'un savoir ultime, j'ai envie de dire.
D'accord, très bien.
Alors donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Pacific FM, justement, c'est parce que l'affaire a lieu à Arquatripon. Pacific FM couvre le Tournaisis, et j'ai considéré qu'il était tout à fait opportun de pouvoir informer en tout premier lieu les personnes de la région par un média qui leur soit propre, qui leur soit proche. Donc là, c'est une priorité que j'ai accordée avant même RTL, Radio Contact ou quoi que ce soit. Donc, et aussi, il faut bien le dire, parce qu'une première fois que je suis venu ici en studio, j'ai été très bien accueilli. C'est encore le cas maintenant.
Hein. Ça nous rassure. Mais nous tenons à vous en remercier, en tout cas Michel, d'avoir choisi Pacific FM. Mm-hmm. Et on en profite aussi pour faire un coucou eh bien, à Patrick, qui vous avait accueilli l'autre fois, qui n'est pas là ce soir, voilà, qui nous écoute très certainement et qui nous a permis de vous accueillir dans cette émission ce soir.
Oui, c'était vraiment très sympathique.
Très bien. Alors, Michel, le livre en tant que tel. Alors, le but réel du livre, est-ce que c'est de refaire toute l'histoire ou, voilà, quel est vraiment votre but à vous maintenant pour d'avoir sorti ce livre, on va dire, récemment par rapport à des faits qui se sont passés dans les années 90 et toute l'histoire qui a suivi?
Voilà, ça c'était un petit peu le problème au départ, c'est qu'il s'agit d'un cold case, une affaire qui remonte à 93 où au niveau de la nouveauté, on n'y est pas tellement. Mais cette histoire avait effectivement été saccagée et les gens, les spectateurs, les auditeurs, d'une manière générale, dans pratiquement toute la francophonie, comme je l'ai dit, avaient été embarqués avec une idée complètement fausse, complètement fallacieuse sur cette affaire. Donc il fallait absolument rétablir la vérité, mais j'ai voulu également donc pouvoir dénoncer cette campagne de désinformation qui était tout à fait scandaleuse, dont nous avons fait l'objet, mais finalement aussi les spectateurs. Les spectateurs ont été trompés sur la marchandise, sur la qualité de l'information. D'accord. Et ça, je considérais qu'au niveau professionnel, c'est absolument impardonnable. Mm-hmm. Là, je peux avoir de l'humour, je peux être tout ce qu'on veut. Je viens admettre beaucoup de choses, mais il y a certaines choses, là, il ne faut pas aller trop loin, quoi. Parce que je ne suis pas le seul en cause. Si ça avait été moi, surtout si j'avais commis des erreurs, j'en ai commis, hein, parce que je ne suis pas parfait non plus. Hein. Je me suis trompé, par exemple, en ce qui concernait Henri Brock et Gérard Majax, qui n'étaient pas donc présents sur les lieux, contrairement à ce que j'avais dit. Et là, c'est un lapsus entre instigateur et investigateur. D'accord. Bon, parce qu'il faut savoir que ces deux personnes qui sont des sceptiques notoires, même des zététiciens, travaillent généralement donc avec Jacques Lyon-Théodore, qui était l'initiateur, je veux dire, du Grand Prix des filles zététiques, qui récompensait, je crois que c'était de 200 000 francs ou 200 000 euros, un million environ de l'époque, toute personne qui aurait été capable de présenter un phénomène paranormal, à condition bien entendu que celui-ci soit examiné de manière correcte avec un protocole ad hoc, en laboratoire, etc., avec une répétitivité possible. Et donc je m'attendais à ce que ces deux protagonistes, Gérard Majax et Henri Brock, soient présents également avec Lyon Todot, mais ce n'était pas, contrairement à ce que l'on m'avait dit, ce n'était pas le cas.
D'accord.
Donc, enfin voilà. Donc moi j'ai voulu, par ce livre, absolument, donc les phénomènes, ça, il fallait évidemment en faire le résumé, il fallait les présenter, sinon on n'aurait pas compris. Mais il fallait donc pouvoir démonter tous les arguments qui faisaient partie de cette désinformation. Et puis alors, surtout aussi, il fallait proposer une solution à cette problématique. Donc, d'où provenait, qu'est-ce qui causait ces phénomènes? Et là, bon, évidemment, poser la question, c'est facile. Quand tu as apporté la réponse, c'est une autre paire de manches.
Mais quand on vous écoute, Michel, un peu toute cette histoire, donc l'histoire un peu folle, aussi bien dans le fond que dans la forme, est-ce qu'on peut parler un peu de malédiction par rapport à toute cette histoire finalement? Est-ce que voilà, cette enquête, cette affaire, ça ne s'inscrit pas dans une malédiction?
Au niveau anecdotique, on peut parler d'une certaine malédiction, ouais, à condition de la mettre entre guillemets. Celle-là, on peut la mettre entre guillemets. Ouais. C'est pas comme les enquêtes du Serpi. Mais bon, parce qu'il s'est passé certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure donc de tout ce qui a concerner des agissements autour du Serpi, le placement sur écoute de la téléphonie de notre groupement. On s'est demandé pourquoi aussi, parce que ça a été vérifié aussi, ça a été vérifié auprès de l'opérateur. C'était pas de la parano, c'était réel. Et on a appris par la suite que ça survenait juste avant l'affaire Snowden, qui était le fameux scandale de Belgacom, etc. Belgacom n'était pas impliqué dans la question, elle était victime. Donc c'était un agissement de la NSA, qui voulait réagir à certains agissements d'États voyous, donc qui portaient préjudice aux États-Unis. Mais bon, enfin soit. Dans toute cette histoire, on veut dire qu'est-ce que le Serpi avait à voir? On était beaucoup trop petit, on était insignifiant par rapport à la NSA, quoi. Donc pourquoi mettre notre téléphonie sur écoute? On n'a pas de rapport avec l'ogre russe, je vais dire. Eh bien, en cherchant bien, on trouve quand même que la présidente d'honneur pour les pays de l'Est du Serpi, Madame Svetlana Popova, qui ne m'entend pas d'où elle se trouve parce qu'elle est en Bulgarie pour l'instant, mais bon, elle est russe et ensemble, nous avons fait par exemple le site New Bulgaria, qui expose sur le plan culturel, folklorique et tout ça, traditionnel, donc la Bulgarie et par extension les pays de l'Est. Donc si on veut chercher, on trouve bien effectivement un rapport avec les pays de l'Est, mais c'est un rapport tout à fait anodin, sans aucune importance, quoi. Mais on peut supposer, quoi, je veux dire, en ratissant très large, que la NSA dit, tiens, bon, là il y a un rapport avec les... on va toujours voir, c'est peut-être, bon, c'est une hypothèse, hein, hypothèse peut-être farfelue, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la téléphonie avait été mise sur écoute. Ça a été vérifié. Ah bon, il y a eu tous ces rôdeurs qui venaient. Bon, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est en rapport ou pas? Est-ce que ce sont des candidats à cambrioleurs? Tout ça, ça met évidemment une très mauvaise ambiance. Et ça ne favorise pas non plus les enquêtes rigoureuses. Mais il y a eu d'autres choses. Notre témoin majeur, l'un des piliers de l'enquête, M. Jean-Marie Tesmoin, là, c'est pas la peine que je lui fasse un coucou, il n'est hélas plus de ce monde. Il nous a quittés, mais dans des conditions absolument épouvantables. Et comme c'était un protagoniste très important de l'affaire d'Arcois Tripon, on pouvait se demander justement si ça ne faisait pas partie d'une malédiction. Hein.
D'accord.
Bon, ça, c'est le genre de choses. Puis alors, bon, il y a plus anecdotique, c'est l'histoire de mon ami Giovanni, qui va vous le raconter lui-même, ouais, d'ailleurs, hein, avec ce reportage à tourner, d'ailleurs.
De quoi parles-tu?
De l'histoire du spot.
Oh oui, bon, c'est un petit détail, hein, c'est-à-dire que lorsque TF1 s'est intéressé donc à cette affaire, Michel et moi, nous avons été interviewés à Tournai, et voilà, c'est vrai, au bout de la troisième question, le spot du projecteur a explosé, voilà. Coïncidence amusante. Hein.
Quand tout s'acharne.
Voilà, un acharnement. Heureusement, ils avaient des spots de rechange, et donc on a pu continuer les interviews hein, ce soir-là. Mais c'est vrai que c'est assez inhabituel, bon, voilà. Bah, je n'y accorderai pas tellement d'importance. Disons.
Non, mais il y a peut-être plus curieux à ce niveau-là, et ça prend cours aussi à tourner, quand justement l'équipe de TF1 parvient à récupérer l'enregistrement des gendarmes. Parce qu'il faut savoir que donc, les gendarmes avaient filmé donc une partie des phénomènes qui avaient lieu à Arcois Tripon. Donc tout ça se trouvait donc sur une cassette, mais qui a été immédiatement saisie par le parquet du procureur du roi. Pendant une bonne vingtaine d'années, des tas d'associations, d'enquêteurs, de recherches, etc., ont demandé l'autorisation au parquet pour pouvoir visionner, ne serait-ce que visionner cette cassette, puisque apparemment il devait y avoir des phénomènes dessus, et ça a toujours été un refus catégorique. Alors nous-mêmes, nous avions posé la question aussi, nous avons introduit une demande en bonne et due forme au parquet du procureur du roi, et nous avons reçu la même fin de non-recevoir. Pas question, donc de toute façon, dessus, il n'y a rien d'intéressant, les images sont de mauvaise qualité, ça nous intéresse, enfin bon, bref, pas intéressant. Et on reçoit donc la cassette, donc de la part de l'équipe de TF1, qui qui avait été saisi par le parquet du procureur du roi. L'aubaine magnifique. Alors, on le sait par l'intermédiaire des animateurs de TF1 que sur cette cassette, il n'y a rien. C'est la déception. Enfin, quand je dis qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Il y a des images. Des images qui sont d'ailleurs de meilleure qualité que ce que l'on disait. Mais en fait, de phénomènes paranormaux, surnaturels, on ne voit strictement rien. Hein? Donc, ça, c'était très gênant. Ouais. On pouvait se dire, bon. Mmh. Mais on avait aussi remarqué certaines bizarreries sur cette cassette. Par exemple, ça commence par une introduction. Une introduction sur laquelle on voit le jeune homme avec une photo dégradée qui dit Arquois Tripon, esprit frappeur, bon, c'est tout. Mais on se dit, comment se fait-il que les gendarmes, dans le feu de l'action, alors que la cassette a été saisie immédiatement, par un adjudant d'ailleurs, auraient eu le temps de faire cette introduction en vidéo? Comment se fait-il aussi que sur la cassette, il y a des moments où la bande-son est coupée? En tout état de cause, il aurait fallu poser la question à la personne qui avait filmé la cassette pour avoir au moins sa version des choses. Et dans nos recherches, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Premièrement, on a trouvé la personne, le nom de la personne. Ensuite, on a réussi à remonter jusqu'à elle. Et pas de chance, ça c'est aussi dans le cadre de la malédiction, entre guillemets, cette personne se trouvait à l'hôpital pour une affection de longue durée. Donc là, on a dû attendre qu'elle guérisse, qu'elle revienne, donc, je veux dire, à la vie professionnelle, en espérant que ça puisse se faire, puisque bon, on n'en savait rien, en fait, hein, y a toujours le secret professionnel, médical. Et puis quand, effectivement, ben, il a fallu attendre des mois, hein, quand le gendarme est revenu, ben, il a pris ses congés d'abord. C'est comme ça que ça se passe sur le plan légal. Et donc, ce n'est qu'après qu'on a pu lui poser la question. Et donc là, on a eu un témoignage de première main, donc de la personne qui avait elle-même filmé, en disant, mais non, écoutez, ça, c'est pas mon travail, c'est pas moi qui ai fait ça. L'introduction n'en était absolument pas question. Nous, on voulait faire un travail sérieux, c'était à présenter au parquet du procureur du roi. On n'allait pas s'amuser, on n'avait pas le temps, de toute façon, de faire une introduction de ce genre. Et les cris, les rugissements, vous les avez entendus? Ah ben non, c'est pour ça qu'il y a des coupures sur la bande-son. Ouais. Et le matelas qui se soulève, parce que là, bon, il n'y avait pas question de problème de luminosité et tout, ni de furtivité des phénomènes. Ça avait duré assez longtemps, on avait tout à fait pu le capter, donc je suis tout à fait sûr que ça devait y figurer. Donc on en arrive à la conclusion, ce qui nous a été procuré par le procureur, eh bien c'est du matériel frelaté, quoi. Hein, donc, ça a été falsifié. Pour se débarrasser des chercheurs, en fait, ça c'est l'hypothèse. Pour avoir une fois la paix avec tous ces gens qui leur posent toujours la même question, qu'on peut avoir accès à cette cassette, plutôt que de toujours dire non, 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 pas question. Ah ben si, voilà. Mais on vous en donne une qui est falsifiée.
C'est-à-dire que les images essentielles n'ont pas été communiquées, quoi. On nous a laissé croire qu'il n'y avait vraiment rien sur ces cassettes. Mais s'il n'y avait vraiment rien, on n'aurait pas fait un tel... jeu de cachotterie, quoi, ouais, là, ouais, c'est ouais, ça, ouais, en fait.
Oui, excuse-moi si je t'interromps. D'autant plus qu'il se dit qu'à propos de cette cassette, je sais plus ce qu'il se dit, c'est une certitude, puisque bon, ça provient de Jean-Marie Tesmoin lui-même, qui était donc sur place et qui, avec Jacques Léon Théodore, avait introduit la demande auprès du parquet du procureur du roi. Il se dit que donc, eux deux avaient pu faire exception à la règle et avoir pu voir les phénomènes, à ce moment-là, les phénomènes initiaux. Hein, donc il a pu y avoir accès visuellement. Mais le parquet du procureur du roi leur avait imposé de prêter serment sur l'honneur de ne jamais rien en révéler à qui que ce soit du contenu de cette cassette.
Donc c'est qu'il y avait bien quelque chose.
Donc c'est que forcément il devait y avoir quelque chose sur la cassette.
Ouais, c'est plus que louche. Tout à fait. À ce moment-là, Jérémy, une réaction par rapport à cette
histoire?
Oui, non,
je trouve ça louche aussi, c'est quand même bizarre. Ouais. Et puis, enfin, ouais, encore comme tantôt je disais, c'est... essayer de contourner, donner des mauvaises informations, ouais, de la désinformation. Pardon.
Pas de souci.
Coup de fatigue.
Non. Mais c'est à la fois louche, mais c'est énervant aussi quand on écoute un petit peu votre version. Ça, on se dit, ben voilà, où est la véritable justice là-dedans dans cette affaire? Où est finalement la neutralité aussi quand on voit un petit peu que directement on peut parler de falsification? C'est quand même assez prenant. On parlait tout à l'heure de révolte. Là, quand on entend cela, je n'imagine pas votre sentiment de rage à ce moment-là, Michel.
Ah oui, c'est écorcé. Hein. Mais je peux encore dire un mot à propos du témoignage d'un garde champêtre qui intervient également dans le reportage pour dire qu'il s'attendait à ce genre de choses, qu'il ne reposait que sur une supercherie. Parce que quand le téléphone tombe, en fait, d'après lui, ça c'est sa version, le jeune homme tirait sur le fil avec son pied. Hein, Ça suppose à ce moment-là que les gendarmes étaient d'une naïveté effarante. Et bon, quand on commence à faire l'enquête, quand on va beaucoup plus loin, on s'aperçoit que tout simplement ce garde champêtre n'était pas présent au moment des lieux, au moment des faits. Il n'était en tout cas pas présent au moment des pics d'intensité, c'est-à-dire donc la nuit du 5 au 6 et du 6 au 7 janvier 1993. Mm-hmm. Bon, ben, je regrette, mais quand on n'est pas là, ben, il ne faut pas dire des choses comme ça, quoi.
Effectivement, oui. Giovanni, donc là, cela fait un petit peu moins d'une heure que l'on parle donc, de tous ces phénomènes tout de même très impressionnants. La question que j'ai envie de vous poser, mais finalement, est-ce que le cas d'Arc Ouattripon est un cas unique ?
Ah non, pas du tout. Hein. Ce genre de phénomène, en fait, a été répertorié partout dans le monde, hein, depuis des siècles, en fait. Hein. Il y a des cas qui datent de 1660, des choses comme ça. Alors, dans beaucoup de cas, heureusement, on a des PV de la gendarmerie, de la police. Hein. En France, par exemple, il y a un commandant de gendarmerie qui s'appelait donc Émile Tizanet, qui a passé 40 années de sa vie à fouiller dans les procès-verbaux de la police et de la gendarmerie. Et il a trouvé des dizaines de cas semblables. Voilà. Donc, dans certains cas, on a des témoins comme ça, donc tout à fait fiables. Il y a aussi des cas tout à fait exceptionnels. Je voudrais vous soumettre un petit cas tout exceptionnel. C'est celui qui s'est produit pendant l'hiver 67-68 en Allemagne, à Rosenheim, donc c'est dans le sud de l'Allemagne. Là, c'est un cas vraiment exceptionnel. Ce cas est mondialement connu, en fait. Hein. Ça se passe dans le bureau d'un avocat, Maître Adam, et ça se passe en plein jour, hein, pendant les heures du bureau. Et pendant 3 mois, il va y avoir dans ce bureau vraiment des perturbations majeures, hein, c'est-à-dire les néons qui se divisent tout seuls, des tableaux qui se renversent tout seuls. Un des phénomènes les plus exceptionnels qu'on a pu observer là, c'est une armoire de 175 kg, parce qu'on l'a pesée hein, après, une armoire de 175 kg qui par deux fois s'est éloignée de 30 cm du mur, okay, en présence de témoins, en présence de policiers. Et le téléphone qui était perturbé. Il y avait tellement de perturbations électriques dans ce bureau d'avocat qu'on a fait venir des techniciens du téléphone, de la compagnie d'électricité. Il y a 2 physiciens de l'université de Munich qui sont allés sur place. Et je vous disais que c'est un cas exceptionnel, donc par sa durée, le fait qu'il y a beaucoup de témoins, mais exceptionnel aussi par le fait que les 2 physiciens, là, ont fait une enquête approfondie. Ils ont publié un rapport de 19 pages, hein, sur cette affaire, et leur conclusion, c'est que les phénomènes ont été constatés avec tous les moyens que permet la science, mais que la science n'a aucune explication pour ces cas-là. Voilà.
D'accord, très bien, très bien, très bien. Alors Giovanni, vous êtes un petit peu aussi le mystère dans cette affaire mystérieuse malgré tout, parce que vous êtes scientifique, voilà, vous êtes professeur de physique, et donc forcément on se demande, voilà, mais le scientifique, que pense-t-il de tout ça? Que pense-t-il aussi des phénomènes paranormaux de manière générale? Est-ce qu'il a un regard justement très scientifique ou ouvert d'esprit?
Alors vous devez savoir que en fait, à partir de la fin du 19e siècle, les physiciens ont été parmi les premiers à s'intéresser à ces phénomènes. Ça peut sembler paradoxal,
oui.
Mais pour moi, ce n'est pas paradoxal du tout. Parce que justement, si un phénomène vraiment paranormal se produit, ben, je considère que les personnes les plus interpellées, les plus concernées, c'est justement les physiciens, puisque eux sont là pour vérifier les lois et comment elles fonctionnent. Et donc, il y a eu, dès la fin du 19e siècle, beaucoup de physiciens qui se sont intéressés à ces phénomènes. Voilà. Alors, il faut être honnête, hein, il n'y a actuellement aucune théorie physique qui permet d'expliquer. Mais la science joue un rôle important, c'est-à-dire que ce que la science permet de faire, c'est de constater le phénomène et de s'assurer que le phénomène n'est pas le résultat d'un trucage. D'accord. Donc, si on se demande ce que les physiciens viennent faire là-dedans, la réponse est simple pour moi. Ce sont les physiciens, ou les chimistes éventuellement, et les mathématiciens, qui sont les mieux armés pour mener une enquête en profondeur et pour déterminer si justement tel ou tel phénomène peut être imité, reproduit et falsifié. Voyez ?
D'accord.
C'est certainement une des raisons pour lesquelles ce sont des physiciens qui s'intéressent. Mais il n'y a pas que des physiciens, bien sûr. Hein. Il y a des médecins, des philosophes qui se sont intéressés depuis longtemps à ce genre de choses.
D'accord. Et vous avez pu déjà expérimenter, entre guillemets, en laboratoire, eh bien, voilà, ces phénomènes, comment les reproduire, par exemple, si je parle de télékinésie, si je parle de fil de nylon, est-ce que vous avez essayé de creuser un peu plus là de votre côté
Alors moi, je me considère avant tout comme un documentaliste. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir à ma disposition ce qu'on appelle un médium à effet physique, hein, donc une personne qui serait capable d'agir comme ça volontairement sur la matière. Mais je me documente et en me documentant depuis très longtemps, je me suis rendu compte que dans la période qui va, on ne sait pas pourquoi, hein, ça se concentre uniquement là, hein, dans la période qui va de 1850 à 1930 environ, eh bien, on a vu apparaître, surtout en Europe d'ailleurs, hein, beaucoup moins aux États-Unis, on a vu apparaître ce qu'on a appelé donc des médiums à effet physique. Voilà. Et il y en a quelques-uns, pas des grosses dizaines. Hein, bon, moi, je pourrais vous en citer peut-être maximum 10. Hein. On a vu donc apparaître des médiums à effet physique qui ont été testés pendant des années, il faut le savoir. Hein. Ils ont été testés donc en laboratoire par des scientifiques. On a découvert très souvent qu'il y avait des tentatives de fraude. On a découvert souvent que le sujet, par exemple, bah, quand il sentait que son pouvoir lui faisait défaut, bah, il essayait de tricher. Ça, c'est, on n'y échappe pas. Hein. La fraude est quelque chose vraiment qui revient tout le temps hein, dans ces phénomènes. Hein, c'est, voilà. Mais je me dois de préciser quand même, c'est ma conviction en tout cas, hein, il y a eu des expériences qui ont été menées de façon extrêmement rigoureuse avec quelques médiums exceptionnels. Et tous les témoins de ces phénomènes ont été convaincus, enfin ceux qui ont eu la chance en tout cas d'être là au bon moment. Hein. Et donc il y a des rapports d'expérience. Moi j'en ai lu beaucoup, j'en ai lu énormément. Il y a des rapports d'expérience concernant donc des expériences faites en laboratoire avec des gens qui parvenaient presque sur commande, presque à chaque fois. Hein. Ils arrivaient à déplacer des objets. On pourrait faire toute une émission là-dessus.
Ouais,
hein.
Ouais, bien sûr.
C'est très vaste, c'est extrêmement vaste. Et ça ressemble très souvent au type de phénomène qu'on observe alors de façon spontanée, comme dans le cas d'Arquatripon. Parce que là, si vous voulez, ce n'est pas volontaire. Hein. Les phénomènes seraient apparus de façon tout à fait spontanée, sans que quelqu'un ait souhaité qu'ils soient là. Alors évidemment, tout le monde s'est posé la question, aussi bien les physiciens que les psychologues, mais pourquoi ça se produit ? Il y a une hypothèse qui est retenue un peu partout dans le monde, hein, c'est que ces phénomènes seraient déclenchés involontairement par une personne qui vit un mal-être, un conflit intérieur, et que ce serait un mode d'expression très particulier. C'est une personne qui ne parvient pas à dire ce qu'elle ressent avec des mots, et elle le dirait de cette façon-là. Parce que toujours on a cette impression de colère, hein. On a des objets qui sont projetés, qui sont cassés. Ce n'est jamais quelque chose de très positif. Hein. On n'a jamais vu un poltergeist accomplir une action gentille. Voilà. C'est toujours destructeur. Je dois quand même préciser, il faut rassurer quand même les gens qui écoutent, ça n'est jamais dangereux. Il y a parfois des projectiles qui touchent des personnes, mais il n'y a aucun cas, à ma connaissance, qui a donné lieu à des dégâts importants. Hein. Les gens sont simplement effleurés ou alors frappés par un objet, mais qui ne produit pas les effets d'ailleurs auxquels on se serait attendu. Donc ce n'est pas dangereux du tout,
d'accord, ouais,
mais
ouais.
C'est très répandu. Vous savez, je vais vous dire, il n'y a pas un seul pays au monde où on n'a pas recensé ce genre de cas.
Ouais,
même
ouais.
En Indonésie, hein, il y a un cas qui s'est produit à Sumatra au début du 20e siècle. C'est vraiment partout, partout.
Mais peut-on justement dire que ce phénomène est très répandu ?
Ça, c'est difficile ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas connus parce que les gens ne font pas nécessairement appel aux forces de l'ordre, qui ne souhaitent absolument pas une médiatisation.
Ouais, ouais, ouais.
La plupart des gens qui vivent ça le vivent très mal. Hein, et ils le vivent mal à cause des médias, à cause des voisins qui commencent à les regarder de travers, des choses comme ça. Ça peut faire énormément de dégâts dans une vie, ce genre de choses.
D'accord. Et vous, justement, en tant qu'enseignant, en tant que physicien, est-ce que... On vous a un jour reproché de finalement prendre parti dans toute cette histoire ou de vous intéresser un petit peu à tous ces phénomènes.
Jusqu'à présent, non.
Ah,
jusqu'à présent, non.
D'accord, donc ça n'a pas... Mais,
je vous dis, moi je fais un travail avant tout de documentaliste. Hein. Je fouille la documentation et je signale qu'elle existe. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à se documenter, ils n'ont qu'à lire les témoignages et se faire leur propre opinion. Ouais. Moi, j'ai mon opinion personnelle, je l'assume, mais je ne l'impose pas. Voilà, je n'essaie pas de l'imposer à qui que ce soit.
On est d'accord que toute cette histoire a tout de même alimenté votre réflexion personnelle et votre vision des choses.
Oui, c'est la seule fois ici dans ma vie que j'ai pu rencontrer des témoins directs de phénomènes aussi exceptionnels.
Ouais, exactement.
On m'a signalé d'autres cas, mais beaucoup moins importants. Hein.
D'accord, justement, donc les deux dernières émissions d'Enquête de l'au-delà, on parlait justement, donc selon les médiums, eh bien, que se passait-il après la mort et comment éventuellement les personnes décédées pouvaient interagir avec nous vivant. Est-ce que vous avez une position, est-ce que vous voulez éventuellement donner votre position là-dessus un peu en fait, ma question est très simple. Tout ce qui s'est passé, est-ce que cela provient, d'après vous, en tant que scientifique, de personnes décédées ?
Alors, vous savez, il y a des gens qui ont étudié ça, je vous l'ai dit, hein, pendant des années et des années. Hein, je pense notamment à un Italien, bon, qui n'est pas connu ici, bien sûr, en Belgique, c'est Ernesto Bozzano, qui a passé vraiment des décennies de sa vie à étudier des cas et à les comparer. Il a fait des études comparées très poussées. Et disons que tous les chercheurs arrivent à cette conclusion, que c'est dans la plupart des cas, On peut dire que ça vient, comme je vous disais tout à l'heure, d'une personne vivante, hein, disons légèrement perturbée psychologiquement, enfin anxieuse, des choses comme ça. Mais il subsiste quelques cas, quand même, qui posent problème et qui laissent vraiment penser qu'il s'agirait de l'intervention d'une personne décédée. C'est-à-dire que dans certains cas, on a des particularités, je ne veux pas entrer dans les détails, mais des particularités qui laissent penser que c'est vraiment la personne décédée. Mais vous savez, dans ce domaine, il est presque impossible d'obtenir des preuves définitives. Restent tout à fait partagés là-dessus. Et disons que les scientifiques, par raison d'économie, vous savez, ils font les hypothèses minimales en science. Hein. Pour faire des hypothèses minimales, beaucoup de parapsychologues évitent justement cette hypothèse-là, l'hypothèse que ce soit la personne décédée. Et on préfère, entre guillemets, on préfère la plupart du temps dire ça vient d'un pouvoir d'une personne vivante. Simplement parce que la preuve absolue, ben, on ne sait pas l'obtenir.
Tout à fait. Donc on en profite, une petite pause pour signaler le cas. Jérémy, une réaction par rapport à tout cela, finalement, que penses-tu de...
Qu'est-ce qui ferait qu'on... Enfin, comment dire qu'est-ce qui ferait que ces phénomènes pourraient être pris plus sérieusement par d'autres personnes? Enfin, par des gens, afin d'éviter tout ce qui pourrait être éventuellement moquerie...
Donc pris au sérieux, vous voulez dire?
Oui.
Ben, le problème qui perdure depuis toujours, hein, c'est que ces questions-là, qui sont quand même importantes, hein, elles ne font pas partie d'un cursus d'enseignement. Voilà. Mm-hmm. Ni dans l'enseignement secondaire, ni dans l'enseignement supérieur, on aborde... Enfin, si, le professeur Dirkens, dont tu parlais tout à l'heure, Michel, lui, je sais que dans ses cours de psychologie, il incorporait des parties comme ça, où il parlait un peu de la parapsychologie. Mais d'une manière générale, c'est vrai que la parapsychologie ne fait pas partie des programmes ni scolaires, ni universitaires. Et je trouve ça un peu dommage, voilà. Une difficulté aussi qui se pose, c'est qu'il faut trouver aussi des gens qui sont suffisamment documentés pour en parler convenablement et ne pas raconter de conneries, voilà. Donc il faudrait une diffusion de l'information. Il y a un autre problème aussi qui se pose. Si vous allez dans une librairie, tout d'abord, si vous cherchez la parapsychologie scientifique, hein, parce qu'il existe une parapsychologie scientifique, vous êtes obligé d'aller dans le rayon ésotérisme. C'est comme ça. Les libraires n'ont pas de rayon parapsychologie scientifique. Ils ont un rayon ésotérisme. Donc si vous cherchez un bouquin sérieux sur la parapsychologie, vous devez vous diriger vers ce rayon ésotérisme. Et dans ce rayon, vous allez trouver peut-être 1, 2, 3, 4% si vous avez de la chance, de bouquins sérieux. La plupart, le reste, l'immense majorité, ben c'est vraiment de la foutaise, on va dire. Hein. Bon, c'est rédigé par des gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas fait une recherche approfondie. Donc ça aussi, c'est un problème. Il y a énormément de livres sur le marché, mais il y en a très peu qui sont écrits par des auteurs compétents. Quand je dis des auteurs compétents, ce sont donc des médecins, ce sont des professeurs d'université, des philosophes ou des sociologues ou des physiciens. Voilà. Donc il y a de la documentation, mais il faut savoir où elle se trouve. Il faut bien la chercher. Ouais. Il faut énormément de patience. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans des bibliothèques, dans des bouquineries. Et il faut vraiment se donner du mal pour trouver de la documentation sérieuse. Si on ne fait pas cet effort-là, on tombe très vite sur des ouvrages qui ne sont pas sérieux. Et bon, voilà, c'est ça le dommage.
On tombe, ouais.
Effectivement. Et justement, donc vous parliez un peu du cursus scolaire justement pour les plus petits. Donc c'est vrai que dès le plus jeune âge, on nous apprend que nous avons donc 5 sens. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on osera parler du 6e sens, du 7e sens un petit peu et d'inciter finalement les jeunes à ce retour à la sensibilité, à la sensation, à l'intuition et tout cela. Est-ce que vous pensez que ça va revenir un jour?
Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère. Hein. Vous savez, il y a des gens qui au début étaient extrêmement sceptiques par rapport à ça et qui, au cours de leur vie, ont vécu des phénomènes interpellants et qui ont progressivement changé d'avis. Vous savez, je vais prendre l'exemple de Sigmund Freud, hein, le psychanalyste. C'était quelqu'un qui était tout à fait opposé au paranormal au début de sa carrière. Et puis, c'est justement à travers son métier, hein, de psychanalyste, il s'est rendu compte, à son corps défendant, il s'est rendu compte que ses patients, de temps en temps, lui racontaient des rêves dont le contenu avait quelque chose à voir avec sa vie personnelle à lui, Freud. Autrement dit, des patients qui devinaient des détails de sa vie intime. Et vers la fin de sa vie, Freud était absolument convaincu de l'existence de la télépathie. Donc vous voyez, les choses peuvent évoluer comme ça dans la population et à travers les expériences personnelles, en fait.
D'accord, donc on a tout de même l'espoir.
Oui.
On garde l'espoir. Et vous, Michel, justement, par rapport à cela, De manière générale, au niveau des phénomènes paranormaux, donc vous êtes un grand connaisseur, nous sommes d'accord. Malgré tout, vous avez quand même une bonne expérience dans le domaine. Est-ce que la sensibilité des jeunes, pour vous, est plus importante qu'il y a, par exemple, quelques années ? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes que vous rencontrez, que vous croisez grâce à vos enquêtes, eh bien, sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, où il n'y a pas de différence, au contraire ?
A priori, je dirais que... Si on examine un petit peu donc les nouvelles générations, j'ai plutôt l'impression que il y a plutôt un désintérêt pour ce genre de choses. Pour eux, c'est de la blague, c'est du cinoche, encore que cinoche est un mot ringard, hein, on ne dit plus comme ça. Non, j'ai plutôt l'impression donc que ça ne les touche pas vraiment, quoi. Ce en quoi Giovanni va probablement dire le contraire, puisque à l'école, il pose souvent la question, je pense justement sur Arcois Trifon.
Il m'arrive d'aborder ces questions-là. Bon, évidemment, lorsque Michel et moi nous sommes passés sur une émission de la télévision française, TF1, évidemment, il y a beaucoup d'élèves qui l'ont vu. Donc, à cause de ça, évidemment, les élèves sont interpellés. Ils veulent en savoir plus. Voilà, comment ça se fait que vous avez été amené à enquêter là-dessus. Donc, moi, je suis un petit peu obligé, par la force des choses, d'en parler. Mais je constate effectivement que, oui, ils sont intéressés. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ils ne vont pas plus loin. Ça me désole vraiment. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut faire un effort personnel pour se documenter. Internet, c'est bien, mais malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos complètement fantaisistes. Et je crois que les jeunes, justement, à force de voir ces choses fantaisistes, ils finissent par comprendre que c'est de la foutaise et ils abandonnent complètement. Et ils ne vont pas plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire aller dans une bibliothèque et se renseigner. Et ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend des années. Et donc, c'est de la paresse, un petit peu, hein, de la part des jeunes.
Ils ne sont pas non plus responsables, parce que justement, vous venez de dire, aller dans une bibliothèque, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rarement à cause de Google, à cause d'Internet.
Exactement,
et tout cela.
Oui, ouais, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit parfois que trop d'infos tue l'info, c'est ça. Et le problème, c'est que Internet, il y a énormément de sites, hein, qui parlent de paranormal. Il y a des vidéos complètement fantaisistes, enfin, des soi-disant chasseurs de fantômes. Donc, très vite, les jeunes comprennent que ce n'est pas sérieux et ils passent à autre chose. Et il faut rappeler quand même l'importance du livre écrit, hein. Et surtout le livre dont on connaît l'auteur, voilà, l'auteur dont on connaît les qualifications. Et ce travail-là de recherche, malheureusement, les jeunes ne le font pas suffisamment.
D'accord, on précise aussi que sur Internet, il y a aussi des gens sérieux malgré eux
dans
tout cela.
Il y en a, oui.
On rencontre souvent, par exemple, justement, des enquêteurs paranormaux qui visitent des maisons hantées et qui font un travail vraiment scientifique et sérieux par rapport à cela. Donc, il faut vraiment aussi pointer ceux qui font cela de manière sérieuse.
Il faut faire le tri.
Voilà. Donc, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, non. Mais méfiez-vous tout de même de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Le temps passe vite. Michel, je reviens vers vous. Donc voilà, ce n'est pas non plus le premier livre que vous écrivez, nous sommes d'accord.
Pas du tout, en fait c'est le deuxième, dans ce domaine-là en tout cas. Le premier c'était « Les phénomènes inexpliqués en Belgique ».
C'était en 2011, c'est bien cela ?
Oui, mais bon, on ne cherchait plus, il est épuisé.
D'accord, et de manière définitive ?
De manière définitive.
Ouais,
d'abord, on peut peut-être encore se le procurer sur certaines zones internet consacrées spécialement à ce genre de choses. En seconde main, par exemple, mais plus en librairie, en tout cas, même pas sur commande. Hein, ça, c'est fini.
D'accord.
Bon, par contre, maintenant, ici, l'actualité, c'est le poltergeist d'Arcois Trifon, vérité, scandale et désinformation. Je le répète donc aux éditions Le Temps Présent. C'est un livre qui, pour le moment, marche pas mal, je trouve.
C'est vrai ?
Oui. De mon côté, en tout cas, je remarque que je le vends sans aucun problème. Il est vrai auprès d'un public déjà intéressé. Il faut tout dire, quoi. Il faut être honnête. Maintenant, bon, en librairie, je n'aurai le résultat que d'ici un an environ.
D'accord, mais ce livre-là, on peut le trouver un peu partout, notamment sur Internet.
Notamment sur Internet, bien entendu.
Dans les plus grandes librairies connues sur Internet.
Oui, oui. Et alors, dans le pire des cas, si on ne le trouve plus en librairie, il suffit de le commander et il n'y a aucun problème.
Hein. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous donner les coordonnées donc, du CERPI aussi
Alors, le CERPI, Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, a bien sûr un site internet. Donc c'est CERPI, CERPI-officiel.be.
Très bien. Jérémy, pour conclure un peu cette belle émission, une dernière question, une dernière réaction peut-être, en tout cas.
Non, ça va.
Mes chers amis, est-ce que vous voulez donner le mot de la fin, la question que l'on ne vous a pas posée, qu'on aurait dû vous poser, ou pour conclure un peu cette belle émission qui a passé très vite ?
Ça, c'est vraiment la question la plus difficile que vous posez. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses.
Je vous laisse le mot de la fin si vous le désirez. Si vous le prenez, en tout cas, voilà, je laisse libre.
Je ne sais pas. Ben, je pense que le sujet est très vaste, en tout cas. Disons que les phénomènes paranormaux, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à Arcois-Trifon. Il y a aussi toutes sortes de phénomènes qui relèvent plutôt de la perception d'une information, hein, ce qu'on appelle en parapsychologie donc la perception extrasensorielle. Peut-être que je pourrais dire deux mots là-dessus justement.
Oui,
ce qu'on appelle la parapsychologie scientifique est en fait une discipline qui vraiment est devenue de plus en plus rigoureuse. Hein. Au début, c'est vrai que on l'a fortement critiqué parce que les méthodes n'étaient pas très scientifiques, mais il faut savoir que partout dans le monde, il y a des scientifiques de haut niveau qui s'intéressent à ça. Et en parapsychologie, on distingue essentiellement deux types de phénomènes. Les phénomènes de perception extrasensorielle, c'est-à-dire qu'une personne perçoit une information par un moyen inconnu, qu'on ne connaît pas. Et puis, l'autre phénomène qui est beaucoup plus rare, hein, et qui est justement le type de phénomène dont on a parlé ce soir, c'est lorsque l'esprit humain interagit, hein, sur l'environnement, fait bouger des objets, et ça c'est vraiment, disons, c'est scandaleux évidemment pour la pensée rationnelle, hein, comment est-ce qu'un cerveau humain pourrait agir à distance. Mais voilà, les deux volets de la parapsychologie, c'est ça. Donc c'est la perception extrasensorielle d'un côté, où l'individu reçoit une information par des voies inconnues, et puis l'autre voie, c'est l'autre aspect, c'est l'individu agit sur son environnement par des moyens encore inconnus. Voilà.
D'accord, très bien. Michel, pour terminer cette belle émission.
Oui, bon, je dirais peut-être, sans déflorer l'objet de mon livre, que donc notre hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, repose donc sur la psychokinèse récurrente spontanée. Mais ce qui est intéressant de voir, et ça on ne peut le faire qu'au travers de la lecture de mon livre, c'est, parce que c'est une partie que moi je qualifierais un petit peu de joyau du livre, c'est de voir avec quelle appropriation, quelle opportunité, les choses s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle quand on constate donc ce qui se passe au niveau contextuel, donc dans la famille, dans cette maison, chez le jeune homme, dans la région d'une manière générale, et à quel point donc tout ça correspond pleinement avec tout ce qu'on dispose comme élément à propos de cette psychokinèse récurrente spontanée, laquelle d'ailleurs elle-même s'inscrit en parallèle avec le modèle de la formation pragmatique de Walter von Lukadou. Bon, là, il faudra développer c'est fait dans mon livre, ça fait très, très compliqué, mais tout est expliqué en détail avec un langage abordable, compréhensible. Et ça s'adapte également donc au phénomène catalytique d'extériorisation, donc de Carl Gustav Jung.
D'accord, mes amis, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents, en tout cas dans Enquête de l'au-delà sur Pacific FM ce soir. Merci pour vos explications très intéressantes. Michel et Giovanni, c'était un plaisir, en tout cas pour nous.
Et pour nous aussi.
Voilà, Jérémy, merci.
Absolument.
À toi,
merci.
Également.
Merci à vous.
Donc, on se retrouvera la semaine prochaine avec le NIRP. Et oui, nous accueillerons donc le NIRP. C'est donc l'association Nord Investigation Recherche Paranormale. Donc, des Français passeront la frontière un petit peu pour parler justement de leurs enquêtes. On se retrouve dans 3 minutes pour donc le résultat du concours, et on annoncera donc en direct le gagnant. À très bientôt, en tout cas au plaisir de vous revoir, peut-être pour un autre livre, pour d'autres choses, mon cher Michel.
Merci beaucoup, le plaisir sera pour moi.
Voilà, merci les amis, à tout de suite donc dans 2-3 minutes pour le résultat du concours.